Voix Nues. Toute cette semaine, Aurélie Luneau rencontre Jean-Louis Etienne. Ce soir, les racines du Tarn.
Bonsoir Jean-Louis Etienne.
Bonsoir.
Vous avez parcouru les terres et les mers, aventurier de l'extrême, repoussant sans cesse les limites, alors non seulement géographiques, mais aussi physiques et mentales. Premier homme à avoir atteint en solitaire le pôle Nord, c'était en 1986. Vous avez marqué notre temps de vos aventures, on peut le dire, en médecin explorateur ou, pour reprendre le titre que vous aimez vous donner vous-même, en entrepreneur d'expéditions extrêmes. Votre parcours est un modèle de ténacité et de persévérance, on va le découvrir. Et vous avez surtout réussi à traverser les âges en réalisant vos rêves. Les rêves d'un enfant venu au monde sur une terre de caractère, le Tarn. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout part de là et que tout vous y ramène ?
Alors, tout part de là, tout part du Tarn, c'est vrai, puisque c'est là que je suis né. Alors, cette question, elle m'invite à regarder d'où ça part, effectivement, cette vie que j'ai. Mes parents n'étaient pas du tout... Mon père était tailleur, ma mère vendait dans un magasin... Le Tarn est une terre agricole, il n'y a pas de sommet, c'est pas la montagne, c'est pas la mer. Je suis né un jour de grand vent d'Otan. Le vent d'Otan, c'est le vent qui souffle très fort dans le secteur quand il vient de la Méditerranée. J'adore ce vent. Et est-ce que c'est ça qui m'a poussé dans mes relations à aller sentir la nature ? Moi, je vivais dehors, en fait, beaucoup. Né à la campagne.
Le 9 décembre 1946.
Le 9 décembre 1946.
À Vielmur-sur-Agoute.
Oui, Vielmur-sur-Agoute, c'est un tout petit village, 800 habitants. Et en fait, j'avais deux pôles personnels, je me rends compte, je peux le regarder avec l'âge aujourd'hui. Une enfance solitaire, j'étais bricoleur, je faisais des choses personnellement. La nature, qui était un refuge, j'étais un garçon timide. La nature était un refuge pour moi. C'était un test à mes audaces en même temps. Qu'est-ce que j'étais capable de faire ? Traverser, monter en haut d'un peuplier pour aller chercher une pie au mois de mai, dans un nid, sur un arbre qui bouge, des choses comme ça. Et en même temps, ça c'était mon histoire personnelle, en même temps le collectif, un village de 800 habitants dans les années 50, 55, 60, tout le monde se connaît, c'était un grand village de connaissances, quoi. Et les copains, le football, après le rugby. Donc il y a un ancrage fort, un ancrage... d'affection en même temps, affection de la famille. J'ai deux sœurs, j'étais le garçon au milieu, assez choyé. On était, on peut le dire, très, pas pauvre, mais à la limite, quoi. Hein. Quand je dis choyé, c'est choyé d'attention, quoi. Hein. Mes parents faisaient ce qu'ils pouvaient. Et donc j'ai grandi dans ce confort d'un village, d'une famille, de groupe d'amis, sans trop de préoccupations. Donc je n'ai pas... Il n'y a rien qui m'a poussé à partir loin, à part un désir intérieur profond que je peux peut-être analyser aujourd'hui, mais qui était, il n'y a rien qui a décidé de ce parcours quand je suis né dans le Tarn.
Et vous le dites, se contenter de rien, on vivait, on se débrouillait avec cette frugalité de la vie. C'est aussi ça qui fait que vous êtes débrouillard, timide, Jean-Louis Etienne,
oui.
Mais débrouillard petit.
Oui, débrouillard trop petit, je me souviens... Bon, je vais vous parler de tout. Les toilettes étaient au fond du jardin. Hein, on faisait un trou à la pelle et puis on vidait régulièrement, comme on répandait. On faisait comme en Chine, quoi. Hein, on mettait les matières sur le jardin. Ça faisait un humus naturel et on n'avait pas la lumière. On y allait avec la lampe de poche. Et donc, je me souviens d'avoir installé la lumière dans ces toilettes. Et je me souviens très bien que mon grand-père m'avait dit qu'il aurait mieux valu encore y aller à la lampe de poche parce que le soir, avec la lumière, il me dit « c'est pire, tout ce que l'on voit ». Voilà, donc j'étais bricoleur, j'ai voulu jouer de la guitare, il n'y avait pas les moyens pour la faire, j'ai construit ma guitare, je l'ai toujours d'ailleurs, c'est une guitare qui a une bonne tête pour quelqu'un qui avait 15 ans quand il l'a faite. La mobilette, on habitait en face d'un garage, un garage de mécanique, j'aimais ça, et j'étais accepté comme un enfant de la famille en fait, et je traversais la rue, et j'allais régulièrement... faire des petites choses, des bricolages au garage, on me donnait un peu de travail à faire et j'en retenais, je me souviens, une fierté. J'avais un bleu de travail et quand je mettais ce bleu de travail, j'ai l'impression d'exister vraiment, vous voyez. Donc je me suis impliqué de mes 10 doigts dans tout ce que j'ai fait. Je repeignais sans cesse le vieux vélo, les trucs comme ça. J'avais besoin de réaliser. Je créais même des bateaux qui n'ont jamais flotté, mais parce qu'ils étaient bien trop lourds avec des planches trop épaisses. Je redressais les clous. On avait pas grand chose, quoi. Hein. Mais il y avait de l'inventivité que je mettais à l'épreuve avec les moyens qu'on avait, quoi.
Et est-ce que, du coup, cette créativité, tout ce qui vous anime, enfant, Jean-Louis Etienne, vous l'avez puisé aussi dans les livres? Parce que je crois que, par rapport à la montagne, à l'appel des grands espaces, vous avez lu notamment Frison Roche.
Oui.
Premier de cordée.
Oui. Je suis toujours un lecteur en difficulté, au sens où le fait d'avoir des enfants m'a permis de diagnostiquer que j'étais dyslexique. Et un bon dyslexique, quoi, hein, profond, avec des difficultés à lire, bien sûr. La lecture est une épreuve. C'est pas fluide, quoi. C'est une épreuve où il y a des embûches partout. Par contre, j'arrivais à lire, effectivement, vous avez mentionné Frison Roche, ça a été une de mes lectures. Il y a eu aussi Le naufragé volontaire d'Alain Bombard, que j'avais lu après le certificat d'études. Et alors, j'avais un appel très fort pour la montagne. Ça, c'est une certitude. D'où est-ce que ça venait, je ne sais pas. Mais j'avais envie de cet engagement. Mes idoles, c'était Walter Bonatic, dans la face ouest des Drues en solitaire. Vous voyez, c'est des ascensions en solitaire qui me fascinaient, dans la face nord du Cervin. Je lisais Frison Roche. Et j'avais, dans ma chambre d'adolescent, trois volets du massif du Mont-Blanc avec les noms des refuges, etc. Je les connaissais parce que je suivais sur la carte les récits de Frison Roche, donc je connaissais l'emplacement des refuges, le nom des glaciers, le nom des sommets. Donc je me déplaçais dans ce massif, je m'inventais des rêves d'alpiniste. On avait trois rochers derrière la maison, et sur ces trois rochers, je m'imaginais faire une ascension himalayenne au Pic de Nord, qui est le sommet à la frontière entre l'Aude et le Tarn, vous voyez. Et ça fait 1200 mètres d'altitude. En hiver, mon père nous y amenait de temps en temps avec la 4 chevaux. Et je marchais face au vent, comme ça, le vent froid. Et je m'imaginais à monter l'Everest ou des choses comme ça. Donc la montagne m'a beaucoup nourri en rêve. Et je ne l'ai réalisé que bien après, quand j'ai été interne, où j'ai commencé à grimper à ce moment-là. Mais la montagne, c'est quelque chose qui a été une sève, qui m'a vraiment nourri.
Alors revenons sur les bancs de l'école, justement. Vous parlez de vos rêves, ces rêves effectivement que vous avez, mais y compris sur les bancs de l'école, parce que les instituteurs vous trouvaient, alors certes timide, mais également rêveur, avec ce handicap que vous ne connaissiez pas, puisqu'il n'avait pas été décelé, la dyslexie. Mais vous racontez dans vos livres, Jean-Louis Etienne, que vous aimiez le français, par exemple. Vous aimiez faire énormément d'efforts pour rédiger une merveilleuse dissertation. Vous en étiez très content. Et puis, systématiquement, vous aviez la note négative, tout cas la note qui fait mal.
La sanction.
La sanction d'orthographe. L'école, c'était à la fois quoi, le bonheur et la douleur associée?
Ça a été une douleur, pas forcément une douleur, l'école, je dirais. L'école, pas une douleur, parce que j'acceptais les notes que j'avais, vous voyez. Et puis, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Et donc, c'est le certificat d'études que j'ai passé en fin de primaire, avec une orientation vers le collège technique. Et c'est vrai que là, on avait des dissertations. Et j'aimais le jour où on nous donnait le thème de la dissertation. Ça nous faisait réfléchir. J'aimais les réflexions dans lesquelles ça nous engageait. Mais la traduction devait être dramatique, parce que j'avais des notes en français, j'aime bien de dire, j'étais proche du niveau de la mer. Vous voyez, c'était vraiment dramatique dans un collège technique. Vous voyez le niveau. Donc après analyse, je pense que j'étais hors contexte. J'étais en dehors de l'épure qu'on nous demandait. Et surtout l'orthographe, quoi. J'écrivais en phonétique, quoi. J'ai retrouvé des choses que j'écrivais. C'est absolument dramatique. Et donc, cette dyslexie, en fait, m'a confisqué l'accès au collège et puis au lycée. Donc, je suis rentré en formation professionnelle très tôt. Donc, les douleurs, elles sont venues, les douleurs que vous évoquez du français, la note sévère. Quand vous réfléchissez à quelque chose, vous avez l'impression d'avoir eu une idée, vous voyez, vous êtes nourri par cette idée. Puis en plus, j'étais pensionnaire, je me souviens, on en parlait entre amis de la façon dont on allait traiter le sujet, et bam, une note très très violente, quoi, hein, et j'étais dans les derniers. Voilà, ça a été difficile avant que je découvre, des nombreuses années après, le goût pour l'écriture, sans être pénalisé par l'orthographe.
Jean-Louis Etienne, dans ce rapport que vous avez eu avec la langue française, cette dyslexie qui vous a empêché finalement d'avoir les notes positives, ces notes qui donnent le plus et puis qui donnent l'envie aussi, vous vous êtes bien rattrapé quand même au moment du bac.
Oui, au moment du bac, je me suis rattrapé parce qu'en fait, donc j'ai passé deux bacs. Il y avait la première partie intégrale, il n'y avait pas que le français, on passait toutes les matières, et puis la deuxième partie du bac. Il ne fallait pas avoir moins de 5 en français. Moins de 5 en français, même si vous aviez 20 en maths et 20 en physique, moins de 5 en français, c'était rédhibitoire, c'était, on échouait. Donc c'était ma grande inquiétude. Et donc il y avait plusieurs épreuves en français, je me souviens, il y avait la dissertation, ou on l'appelait la rédaction, je ne me souviens plus, une explication de texte et autre chose. Et je me souviens très bien que tout le temps, le prof disait, ne prenez surtout pas l'explication de texte, c'est casse-gueule. De toute façon, moi, je ne pouvais pas me casser la gueule que ce que j'avais avant. Et donc, je prends l'explication de texte, c'était un texte de Pagnol. J'ai eu 14. Et donc, pour moi, j'ai un doute dans ma tête, si vous voulez. J'aimerais voir que c'est bien moi qui ai écrit ça, quoi. Qui a eu 14, qu'est-ce que j'ai pu dire et comment l'écrire pour mériter cette note. Et ça a été très réconfortant.
Donc finalement, vous étiez presque voué ou déterminé à vous engager dans un parcours technique qui n'était pas forcément le vôtre d'emblée ou dans votre tête, mais vous saluez dans votre parcours, Jean-Louis Etienne, le rôle des instituteurs à vos côtés. Ces instituteurs style 3e République.
Oui, oui. J'avais un... pas de sixième, donc vers le certificat d'études, Monsieur Galli, inoubliable pour moi, un instituteur à l'ancienne. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on avait Jules Ferry dans la classe avec une ambition pour ses élèves. Vous voyez, une ambition pour ses élèves, l'envie de sortir, ces élèves-là où ils sentaient un petit germe, quelque chose, l'envie de sortir, avec son intolérance, une intolérance violente parce qu'on avait droit à des coups. Chose qui, bien sûr, aujourd'hui,
Monsieur
Galli serait rayé. Mais bon, il imposait un respect au-delà de sa manière un peu violente. Il savait aller chercher chez nous quelque chose qui faisait qu'on se dépassait. Et je dirais que cet homme-là m'a marqué parce qu'il était intransigeant sur le travail. C'était un travailleur, on voyait bien, donc hein, il est intransigeant sur le travail. Donc ce travail nous a conduit à chacun d'entre nous à se dépasser un petit peu à un certain moment. Et donc tous de la même classe, là on est partis vers une formation professionnelle. Pour moi, ça a été le collège technique. Et le collège technique, c'était naturel d'aller vers une formation professionnelle. Et je voulais faire menuisier. J'adorais le travail du bois, l'odeur du bois. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et puis, il n'y avait pas de place dans la section menuiserie. Donc, je suis entré en ajustage et en tourneur-fraiseur. Et donc, je suis rentré au collège technique en faisant une formation de tourneur-fraiseur. Et ça a été le départ d'autre chose, quoi.
Et pensionnaire à Mazamet.
Pensionnaire à Mazamet. Le pensionnat, au début, c'était dur, quoi. Hein, parce que le collège technique, les pensionnaires étaient quand même... des gars un peu durs, on va dire. J'étais un ange à côté.
Des bons bizutages, quand même, je crois.
Des bizutages un peu sévères, oui.
Oui.
Voilà. Et donc, c'était très dur, jusqu'à ce qu'en fait, je trouve les copains, parce qu'ils n'étaient pas tous comme ça, des copains, et c'est devenu une famille. Et j'ai aimé la pension. Au début, je pleurais quand je partais le dimanche soir. Et puis, au bout d'un trimestre, j'ai commencé à faire des copains. Et je retrouvais une famille, des copains, où on était tous dans la même histoire. Donc d'avoir des amis proches avec qui on partage le soir les discussions, les jeux dans la cour de récréation. Voilà, donc j'ai aimé ça. Et surtout, l'apprentissage technique a été une révélation, pas pour moi parce que j'étais un manuel, mais une révélation dans le sens où il y a une sanction de la part du professeur de technique sur la chose que l'on fait de ses dix doigts. Et quand vous faites un ajustage avec une bonne précision qui est demandée et que vous avez une bonne note, c'est vous qui l'avez fait. Vous êtes sanctionné pas sur une connaissance générale que vous avez apprise, mais par quelque chose que vous avez fait de vos dix doigts. Donc il y a un lien direct, tout d'un coup, entre la note, la compréhension, et vous le touchez ce que vous avez fait, c'est vous qui l'avez fait. Et donc vous êtes valorisé sur ce que vous avez fait. C'est une reprise de confiance dans le cursus scolaire qui a encouragé encore aujourd'hui. Parce que quand vous faites quelque chose... Et puis c'est beaucoup plus simple. on vous le met devant, vous avez une problématique, un enseignant qui est un ancien ouvrier souvent, qui vous aide à réaliser ça, et quand vous l'avez réalisé, vous avez devant vous quelque chose que vous avez fait. Et ce parcours est très valorisant, et donc j'ai commencé à reprendre une confiance dans mon parcours scolaire. Les mathématiques, c'est devenu un jeu grâce à Suzanne Pujol, une prof de maths qui savait nous donner envie. C'est ça la pédagogie en fait, c'est donner envie. Et les maths est devenu un peu comme un jeu de piste, vous voyez, où les théorèmes sont des flèches qui vous amènent vers une solution. Et donc c'est devenu un jeu. Et voilà, et donc ça a été pour moi tout d'un coup l'occasion de se déployer dans le milieu scolaire, chose où j'étais pénalisé par avant.
Vous parlez de cette importance jouée auprès de vous par à la fois donc, des instituteurs ou des enseignants. Vous écrivez ceci, Jean-Louis Etienne, qui dit beaucoup justement. « Éduquer, c'est transmettre les mots et l'amour de sa science pour nourrir le goût du savoir. »
Oui, il y a une jouissance dans l'apprentissage. Ça part d'une bonne pédagogie, d'abord. La pédagogie, c'est donner à l'autre l'envie. C'est un travail de metteur en scène de la connaissance, vous voyez. C'est ça, la pédagogie. Ce qu'on appelle les bons profs, c'est ceux qui nous donnaient envie et surtout qui inspiraient une confiance. Il y a un lien qui se crée avec le prof. Vous avez l'impression qu'il vous enseigne et qu'il vous protège en même temps, vous voyez. C'est important, ce rôle-là, il vous accompagne. Il vous donne envie et à vous, avec l'envie, on va loin. Et c'est pour ça que les sciences, ou si c'est quelqu'un d'autre, la littérature, mais l'initiation, mettre en germe chez vous quelque chose que le prof, il doit sentir à un moment donné, ou s'il le sent, vous donner envie de quelque chose, quoi. Et après, c'est à vous de le déployer. Et il y a une jouissance. Moi, je me souviens, les maths, par exemple, si on parlait des maths, on avait... après, j'ai fait maths LM après, ce qui correspond à S, je crois, aujourd'hui. J'aimais les maths. On avait 4 bouquins de maths, je me souviens. Et moi, je faisais des maths en avance. J'étais en avance sur la leçon de maths parce que j'étais curieux de savoir comment... Ce qui m'a valu des bulles une fois parce que j'avais résolu un problème à la compo du premier trimestre avec une solution de quelque chose qu'on devait apprendre au deuxième trimestre. Ce qui simplifiait énormément le... Mais donc, c'était suspect, vous voyez, je sais pas. Donc, je pense que à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous donne envie, et encore une fois, je le répète, c'est un travail de metteur en scène. Les enseignants devraient faire au moins un an de théâtre. Parce qu'il y a des matières qui sont plus faciles, plus ou moins faciles à enseigner. Il y en a d'autres qui sont assez rébarbatives. Et de les mettre en scène comme ça pour donner à l'autre envie de vous écouter et en même temps de se dire qu'il reçoit cette envie, si vous voulez. Et quand on rentre ou quand on lit, on n'est pas là pour bourrer le crâne. On est là pour stimuler quelque chose et à vous, après, à ouvrir les pages d'autres livres pour enrichir votre connaissance.
Et en dehors des enseignants, Jean-Louis Etienne, quel rôle jouaient vos parents à vos côtés? Parce que je crois que votre père, lui, avait été plus qu'à l'école de l'effort, mais il avait suivi la voie que son père lui avait tracée, qui n'était pas forcément la sienne. Oui. Est-ce que vous, votre père, vous a suivi dans ce parcours qui commençait, là, qui était en gestation?
Mon père m'a suivi... il m'a toujours fait confiance. J'ai eu des parents qui m'ont fait confiance dans les choix que j'ai faits. Quand j'ai dit que j'allais faire médecine, ça lui a posé un problème. Quand la perspective du bac est arrivée, ou au collège technique, donc les bonnes notes que j'ai eues, on a dit, ce gars-là, il faut peut-être l'envoyer vers le bac technique. Une parenthèse, le bac technique venait d'être créé il y a peu de temps avant. Il y avait des manifestations comme quoi il était absolument inadmissible qu'on puisse passer le bac sans avoir fait du latin et du grec. J'ai eu la chance de passer entre les mailles, parce que bien sûr, pas de latin, pas de grec, du technique, si vous voulez. Mon père se renseignait, il était inquiet, il se renseignait, il était tailleur, donc il avait des clients qui étaient, on va dire, de la bourgeoisie. Et mon père, inquiet, avait posé la question à un de ses clients, « Mon fils voulait faire médecine. » C'était un avocat qui lui avait dit « Est-ce qu'il a fait du latin et du grec ?» Mon père avait répondu « Non, il est au collège technique. » Et l'avocat lui dit « Alors il n'y arrivera jamais. » Et mon père venait me rapporter ça en me disant « Maître un tel, je ne vais pas le citer puisqu'il a encore envie, maître un tel, si vous voulez, m'a dit que. » Et donc moi j'avais 100 têtes et rien ne pouvait m'arrêter. Donc mes parents, et après donc il en a eu une grande fierté bien sûr, il avait peur aussi que ça l'impose de travailler démesurément, déjà qu'il faisait ses 60 heures par semaine. J'ai dit « Papa, t'inquiète pas, je serai autonome. » Et effectivement, j'ai toujours fait en sorte d'être autonome. J'avais une bagnole que je réparais moi-même. J'avais 3 clients par semaine. C'était des potes que j'amenais à Toulouse à la fac qui ont partagé l'essence. Vous voyez, donc je me suis débrouillé comme ça. Donc mes parents ne m'ont jamais interdit quoi que ce soit. Ils m'ont fait confiance et laissé la liberté d'organiser ma vie.
Donc finalement, vous êtes l'exemple même d'un parcours scolaire devenu réussite, mais qui aujourd'hui serait peut-être voué à l'échec. On peut dire ça ?
Il peut être voué à l'échec. Alors, est-ce que j'aurais échoué si je m'étais retrouvé menuisier à Villemur-sur-Agoute ? Non, parce que si je l'avais choisi et que je m'y étais épanoui, ça aurait été bien. J'ai enrichi mon parcours, il y avait une ambition personnelle, si vous voulez, de faire quelque chose de plus grand. Est-ce qu'aujourd'hui, ce parcours est reproductible ? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, et je me penche beaucoup sur la formation professionnelle à partir de la 3e, où il y a des élèves qui s'ennuient, et peut-être les orienter vers une formation professionnelle pour reprendre confiance, pour aller vers quelque chose qui va vous ramener de l'existence, de la vie réelle, voyez. Et je fais des conférences un peu moins aujourd'hui dans les établissements scolaires, dans les lycées, j'ai moins de temps, mais chaque fois les directeurs d'établissement disent la même chose. Les parents veulent pousser leurs enfants vers un bac général, alors qu'on sent déjà qu'en 3e, ils ont des difficultés. Il faudrait au contraire les ouvrir vers une formation professionnelle. Là, on est capable de reprendre confiance, de reprendre en main sa vie, parce que tout d'un coup, on touche la réalité, quitte à revenir après. Et il y a des passerelles, effectivement, pour revenir après dans un autre parcours, les IUT, pour devenir ingénieur. Il y a des passerelles qui existent. Entrer dans des grandes entreprises qui forment des gens qui ont un bac professionnel, donc qui ont déjà une ouverture vers la vie pratique, et ensuite les amener à grandir dans l'entreprise. Je pense que ça existe, oui, et c'est possible aujourd'hui.
Oui, quand on dit « vouer à l'échec », c'est l'échec d'accomplir ses rêves. Pas forcément l'échec de devenir menuisier ou artisan, parce que ce sont des beaux métiers. Mais c'est surtout se dire qu'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il y a cette poursuite des rêves ?
Tout à fait. Tout à fait. En fait, moi, quand je parle de ma vie, on va en parler, bien sûr. Mais on a le sentiment que je suis animé par une passion inoxydable, vous voyez ? Eh bien non. Non, moi j'ai des rêves, mais j'ai des faiblesses, j'ai des doutes. La passion, et je le répète sans arrêt, la passion c'est comme le feu, si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête. Et je conclue en disant que les bûches, on ne les trouve pas toujours au fond du jardin, vous voyez. Donc des fois il faut aller loin dans son engagement personnel, traverser des doutes, traverser des moments où on a envie d'abandonner pour accomplir ses rêves. Et ce à quoi j'encourage, c'est aller vers la voie de vos rêves, parce que la vie est beaucoup plus facile, mais même si le chemin est difficile. Et la voie du rêve n'est pas forcément la plus simple.
Vous avez failli être rugbyman ?
J'ai failli être rugbyman, je l'ai été un petit peu. J'ai commencé au collège technique, dans la cour, on faisait une balle avec du papier et des élastiques, et on jouait à toucher, parce qu'il y avait du macadam, on n'avait pas le droit de plaquer. Et je me suis découvert une passion pour le rugby. J'ai été ensuite au Castres Olympique en junior B, junior A. Là, j'avais des migraines après le match et on a dit « il faut qu'il s'arrête ». Ça a été une frustration colossale. J'adorais ce sport, j'avais même été sélectionné des Pyrénées, je me débrouillais bien. Demi de mêlée, c'était un poste qui m'allait tellement bien entre les gros devant et les gazelles derrière. Et puis on distribue le jeu, on est une charnière, voilà. Et j'ai adoré ce sport qui était à ma taille en même temps. Moi, je suis resté petit. C'est parfait qu'un demi de mêlée, il faut qu'il se faufile partout. J'adorais ce sport. Donc, vous réveillez une frustration, vous voyez. Aujourd'hui, je regarde toujours le rugby avec plaisir, mais pendant presque 15 ans, j'ai pas pu regarder les matchs. C'était une souffrance pour moi. J'adore ce sport.
Et juste parce que vous aviez des migraines ophtalmiques.
Juste parce que j'avais des migraines ophtalmiques, oui. Effectivement, je pense qu'on aurait pu me laisser le sport et les soigner autrement. Mais bon, à l'époque, c'était beaucoup plus simple de dire qu'il arrête de faire ce sport.
Donc, dès l'enfance, il vous faut vous construire avec et contre, finalement.
Vous avez raison. Vous avez raison avec les contres, mais l'existence n'est que ça. Et c'est ce que j'appelle passer des seuils, en fait. Vous voyez, avec, c'est vous avancez. À un moment donné, vous avez un contre qui arrive. Vous avez une idée. Vous dites, tiens, c'est ça que je veux faire. Puis vous avancez, c'est tout neuf. Vous déployez dans quelque chose que vous découvrez vous-même. Et puis en avançant un peu, il y a de la concurrence, il y a des difficultés, il y a des découragements. Et si vous avez eu une envie forte, il faut tenir. Il faut tenir jusqu'à passer ce seuil du découragement, cette tentation de l'abandon. Et c'est comme ça qu'on progresse. Mais on n'arrive jamais au plaisir de sa réalisation dans la douceur. Chaque fois qu'on change de niveau dans sa réalisation, il y a un travail, il y a des doutes à passer. On n'a rien sans rien, c'est une expression ordinaire, mais c'est une réalité.
Donc, se construire avec et contre, tout cela pour un jeune homme timide et en même temps déterminé dans ce qu'il a envie de faire, et très maladroit avec les filles, je crois.
Ouf ! Là, vous soulevez une timidité colossale. J'étais d'une timidité... Il y avait, au ce collège technique, il y avait des filles qui faisaient... c'est marrant, ils avaient enlevé les métiers masculins, c'était l'ajustage, la menuiserie, des choses comme ça. Et les filles, elles faisaient donc le secrétariat, les laborantines, les choses comme ça. Et donc, moi, il y en avait une qui s'adressait à moi, je devenais tout rouge. Enfin, j'ai eu des difficultés de confiance abominables. Aller dans une boîte de nuit, traverser pour inviter de l'autre côté, ça se passait comme ça. Donc on traversait la piste sous les yeux de tout le monde et on se prenait un râteau en face, revenir en se disant, mais voilà. Donc j'ai vécu des tortures, si vous voulez, dues à ma timidité, c'est vrai. Et c'est comme ça. Et c'est peut-être, si vous voulez, ce qui m'a conduit à faire des choses plus intérieures, plus personnelles, ou dans une recherche d'autonomie, même une autonomie affective qui fait qu'en fait, on garde en soi, dans un coffre-fort, ses émotions. Et de temps en temps, elles explosent en sortant. Vous voyez, c'est une gestion des émotions qui n'est pas toujours simple. Mais cette timidité m'a forcé, effectivement, à essayer de me déployer par moi-même.
Et à quel moment est-ce que vous êtes senti plus à l'aise avec la gente féminine, finalement?
Je ne sais pas si on se soigne de ça. Alors que j'adore la compagnie des femmes. Si vous voulez, j'adore. J'aime bien la délicatesse, j'aime bien, vous voyez. Mais j'ai toujours une timidité, un manque de confiance en moi, dans ma capacité à séduire. Vous voyez, je ne suis jamais à l'aise avec ça.
Et ça ne vous a pas quitté?
Non.
Alors si cette timidité avec les femmes, Jean-Louis Etienne, ça ne se soigne jamais, je vous propose qu'on vous retrouve demain. Justement, dans la peau du médecin, peut-être celui qui trouve des solutions, pas forcément pour vous-même, mais pour les autres. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Aurélie Luneau avec Jean-Louis Etienne. Voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon. Prise de son Philippe Etienne. Réalisation Véronique Lamandour. Coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.